Bonjour à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons conjuguer musique classique, improvisation et jazz des deux côtés de l'Atlantique, avec des compositions de Keith Jarrett à Claude Debussy, en passant par Henryk Gorecki et Albert Roussel, et des compositeurs belges et canadiens que vous allez découvrir. Pour nous guider dans ce parcours, nous allons nous entretenir avec les pianistes François Mardy-Rossian et Patrick Astrid Desfossés, qui vont nous présenter leurs nouveaux albums. Bonjour François Mardy-Rossian.
Bonjour Christophe.
Ravi de vous accueillir pour la première fois dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Nous avions eu l'occasion de présenter vos précédents albums consacrés à Philip Glass, à Alan Hovhaness et à Eric Satie et ses descendants, les gymnopédistes, tous publiés par le label Ad Vitam Records et qui ont tous reçu un très bel accueil critique. Disciple de grands pianistes et pédagogues, Henri Barda, Jean-Claude Van den Heinden, votre répertoire est très étendu, de Chopin et Rachmaninov jusqu'à John Cage, en grand amoureux de la musique de votre temps. Vous co-dirigez le Festival de musique contemporaine Superspective à Lyon et vous êtes conseiller artistique de la Trinité, nouvelle scène de musique baroque et irrégulière, également à Lyon. Alors j'aurais une première question. Pourquoi Ritual, ce disque consacré au grand pianiste de jazz Keith Jarrett, qui sort, comme vos précédents albums, sous le label Ad Vitam Records? Est-ce un pas de côté, François Mardy-Rossian?
Alors c'est un pas de côté pour un pianiste classique, dans le sens où je me confronte à une légende vivante du jazz, mais Keith Jarrett n'est pas qu'un jazzman, c'est aussi un pianiste classique, c'est aussi un compositeur, c'est un musicien qui a plusieurs styles et esthétiques dans sa palette, dans ses mains. Et c'est un pas de côté, mais pas vraiment dans le sens où Keith Jarrett, un musicien qui joue ses contemporains. Et là, une des choses qu'il a faites, notamment en tant qu'interprète de la musique de son temps, c'est d'enregistrer aussi la musique d'Ovanès. Donc on peut trouver quand même des correspondances dans ma discographie, des échos qui se répondent entre eux.
Alors il a séparé d'ailleurs ses interprétations de musique écrite, comme Mozart, Jean-Sébastien Bach, Shostakovich, qui ont d'ailleurs reçu un très très bel accueil critique.
Des improvisations. Un enregistrement de Bach a été primé devant Gustave Léonard dans la tribune des critiques.
Ce qui n'est pas peu dire. Et alors, ces improvisations étaient souvent captées au concert, comme évidemment le fameux concert de Cologne de 1975. Alors c'est un disque de jazz qui s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires, ce qui est absolument exceptionnel dans ce domaine.
C'est le disque de piano solo jazz le plus vendu dans l'histoire, tout simplement.
Et de piano solo tout court, je crois.
Tout à fait.
On reviendra un peu plus tard sur le chef-d'œuvre oublié, Ritual, mais parlons de ce bis bruxellois, Bruxelles encore, de 2015, de Keith Jarrett, qui ouvre votre album.
Le bis de Bruxelles, c'est une petite pièce qu'il a donnée après un concert dont il a le secret, un fleuve en solo. Et c'est un concert auquel j'aurais pu assister, parce que malheureusement, je n'ai jamais entendu Keith Jarrett en vrai.
Quel dommage.
Et je me souviens avoir été à Bruxelles en train de boire une bière et on m'a proposé d'aller à ce concert et j'ai refusé parce que j'avais pas fini ma bière et je regrettais ardemment parce que j'adore Keith Jarrett et j'ai privilégié l'alcool. Et je me suis rattrapé en récupérant la partition de ce petit bis qu'il a donné et c'est une merveille de musique.
Mais alors ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait une partition, parce que Keith Jarrett était un très grand improvisateur, comme vous l'avez dit.
Oui, c'est un improvisateur, mais beaucoup de jazzman, de musiciens, passent leur temps à transcrire, à écouter et à remettre sur une partition pour pouvoir remettre les doigts dessus. Et c'est ce qui a donné ce disque. En fait, les bis, c'est encore de Tokyo, My Song à Berlin ou à Bruxelles, le bis. Ce sont des gens, des Américains et des Français qui ont passé un temps fou à essayer de transcrire note à note ce qu'il avait un peu fait d'une façon éphémère.
Ah oui, d'accord. Ça, c'est très bien. Ça. Comme ça, ça nous laisse un souvenir de ce pianiste qui, malheureusement, ne pourra plus jamais jouer après ses AVC.
Ça fait.
On écoute, on vous écoute. François Mardy-Rossian, vous interprétez Keith Jarrett, un bis à Bruxelles.
Thank you.
Bruxelles encore, de Keith Jarrett, par notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, le pianiste François Mardi-Rossian. Dans les notes de présentation de votre nouveau disque, vous déclarez avoir trouvé la partition la plus rare du monde de Keith Jarrett, Ritual, une pièce d'une durée de plus d'une demi-heure, datant de 1974, mais qu'il n'aurait jamais jouée.
Tout à fait, c'est une pièce qu'il a composée un an avant le fameux Cologne Concert, à la demande de son ami pianiste Dennis Russell Davis, qui est toujours vivant et qui est maintenant chef d'orchestre. Et il a demandé de lui composer cette pièce, une pièce tout simplement qu'il pourrait jouer, et qui j'arrête à composer une sorte de sonate de Liszt contemporaine qui s'appelle Ritual, une pièce en un seul tenant d'une demi-heure, avec des motifs musicaux un peu comme des leitmotivs chez Wagner ou chez Liszt, qui reviennent sans cesse dans l'œuvre, qui se transforment, qui se métamorphosent. C'est vraiment une œuvre monde où on a plusieurs styles de musique à l'intérieur. On a le jazz, on a la musique répétitive, on a des échos de la musique de Gurdjieff, de Vanès. On a aussi la patte inimitable de Keith Jarrett. Et c'est vraiment une pièce particulière dans le sens où c'est pas une improvisation. Donc ça a été composé et ça a été vraiment écrit pour être joué. Et j'ai fait des pieds et des mains pour obtenir la partition auprès de Dennis Russell Davis qui m'a refusé. Et je suis tombé avec une grande chance en amitié avec un pianiste américain qui vivait à Rome, qui était très âgé, qui lui avait la partition et qui me l'a confiée.
Formidable, c'est une grande chance. Alors ce qui est quand même très étonnant, c'est que Keith Jarrett ne l'ait jamais joué.
Non, effectivement, le disque est sorti chez ECM, Ritual, Dennis Russell Davis, œuvre de Keith Jarrett, mais lui ne l'a jamais, peut-être il existe au fin fond des tiroirs de sa maison, c'est lui aux États-Unis, un enregistrement privé, mais à l'heure actuelle, non, effectivement, ce serait un rêve absolu de voir que Keith Jarrett donnerait lui-même de sa propre pièce.
Eh bien, écoutons le début de cette pièce, écrite un an avant le fameux concert de Cologne, Ritual. La musique de Keith Jarrett, c'était le début de Ritual, la pièce majeure de votre nouveau disque François Mardi-Rossian, qui sort chez Ad Vitam Records. On a vraiment l'impression d'une pièce improvisée, alors qu'elle ne laisse en réalité aucune place à l'improvisation. Dites-nous, François, comment s'est déroulée la séance d'enregistrement et quel piano avez-vous joué ?
Alors, j'ai la chance d'avoir un excellent ingénieur du son à la personne de Jean-Yves Labatrossi, qui est le patron avec un diomogar d'Atitam. Et on a enregistré ça à Sens, dans le studio de Stéphane Polello, sur son fameux piano sans touche. Un piano qui a vraiment une couleur caractéristique et qui est magnifique, tout simplement, et qui donne, je trouve, une nouvelle écoute au répertoire pour piano, dans le sens où je trouve qu'on est un peu de plus en plus formaté par l'écoute sur des Steinway ou des Yamaha. Oui. Et c'est vrai que ce piano a une couleur très particulière, il a des harmoniques très riches, les cordes sont parallèles, l'alliage qui constitue les cordes sont très particuliers, donc c'est pour moi un des meilleurs pianos actuels. Et jouer cette pièce là-dessus, ça permet de lui donner toute cette résonance, parce qu'il y a beaucoup de résonance dans cette pièce, des grands accords, des ambitus assez élargis, qui permettent d'avoir toute la richesse de cette pièce. Et pour rentrer dans le détail de l'enregistrement, comme c'est une pièce de 30 minutes, je me voyais pas la jouer d'une traite, et que ça soit juste comme ça. Donc je l'ai sectionné en 10 parties, et on l'a fait à chaque fois 10 parties comme ça, mais in fine, à la fin d'enregistrement, j'ai voulu la jouer une fois en entière, et c'est celle-ci qu'on a retenue, et on a fait juste un petit rajout à un moment. Donc c'est vraiment un enregistrement naturel, sans, avec peut-être 2 ou 3 points de montage.
En tout cas, c'est l'impression que ça donne à l'écoute. Mais est-ce que c'est facile de, j'allais dire, d'apprivoiser un piano comme celui-là ? Parce que c'est quand même différent, c'est différent des pianos habituels.
Franchement, oui, je vais pas m'inventer une histoire en disant que j'ai dû passer des heures pour appréhender le piano. Non, il est tellement, je trouve, parfait que, en tout cas, moi, mon rapport personnel avec cet instrument, c'est que c'est assez évident, en fait. On pose les doigts dessus et il me donne tout ce que je cherche à ce qu'il me donne, en fait. Les couleurs, le toucher, le timbre, la précision sonore. J'ai pas eu un temps d'adaptation infini et c'est une sorte de coup de foudre pianistique avec cet instrument.
Eh bien, j'espère que vous pourrez enregistrer à nouveau avec ce piano un prochain disque. Alors, tous les morceaux de votre album, François Mardi-Rossian, sont pour beaucoup des découvertes passionnantes. Pour ma part, j'ai été particulièrement séduit par La Dernière Plage, Les Bis de Tokyo de 1976, qui font référence à 5 concerts au Japon qui étaient, je crois, exceptionnels, François Mardi-Rossian.
Oui, c'est ça. Donc, c'est la période, je trouve, la plus riche et la plus extraordinaire de Keith Jarrett. C'est cette période où il s'immergeait dans des concerts fleuves immersifs de 1h30, sectionnés en 2 ou 3 parties, plus un ou 2 bis. Et après le concert, il est allé faire plusieurs concerts au Japon, dans les grandes villes d'Osaka, Tokyo, Kyoto, Sapporo et Nagoya. Et tous ces concerts ont été enregistrés et ont été publiés par ECM dans un énorme coffret de pratiquement 12 vinyles. Ah oui. Qui avait été très 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 impressionnant à la sortie. C'était plutôt rare qu'un pianiste sorte tout d'un coup 5 concerts solo improvisés. C'était vraiment unique. Et moi, je trouve que dans ces concerts, on a toute l'histoire de la musique qui est convoquée. En fait, ça charrie tous les idiomes musicaux du baroque jusqu'à aujourd'hui avec des choses inédites, avec un grand lyrisme, avec des techniques musicales très particulières. Et à l'époque de la sortie en vinyle, on n'avait pas ce bis de Tokyo, parce qu'il n'y avait pas la place. C'est quand ça a été réédité en CD, quelques années après, dans les années 90, que CM a sorti 3 bis qu'il avait donné, un à Nagoya, un à Sapporo et un à Tokyo. Et le bis de Tokyo est devenu une sorte de Madeleine de Proust de plein de gens qui aiment Keith Jarrett, et c'est devenu la mienne, et j'avais à cœur de donner ma version, en fait.
En tout cas, c'est un très beau label qui soigne beaucoup ses enregistrements, ce label munichois de Manfred Eicher.
Ah oui, c'est un de mes labels préférés, avec Ad Vitam, évidemment.
Naturellement, j'allais le dire. On vous écoute, François Mardi-Rossian, dans Tokyo Encore. Thank you. Tokyo Incorps par notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, François Mardi-Rossian, extrait de votre remarquable album consacré à la musique de Keith Jarrett qui sort sous le label indépendant Ad Vitam Records. Avez-vous des dates de concert?
Oui, j'en ai plusieurs. Je vais jouer justement cette année pour l'anniversaire du Club Concert. Je l'ai repris plusieurs reprises durant le mois de janvier. Je vais le rejouer le 16 avril à Bruxelles, le 2 juillet à Genève. À côté de ça, j'ai d'autres projets. Je vais faire un concert consacré à Henri Mancini à l'Opéra de Lyon le 17 avril. J'ai des conférences musicales aussi sur la musique minimaliste à Montpellier, que tout un cycle de conférences où j'explique cette musique au piano à l'université Paul Valéry. Donc je suis un peu un boulimique de répertoire. J'aime bien. Je suis pas le genre de pianiste à se consacrer pendant 4 ans sur les trois dernières sonates de Beethoven et 4 ballades de Brahms. J'adore cette musique-là. Je les ai jouées aussi, mais j'ai tout le temps une soif de mettre sous les doigts toujours des musiques nouvelles.
Et en région parisienne, non? Pas de date prochaine?
En région parisienne, malheureusement, c'était il y a quelques jours, samedi dernier, j'ai joué à Génération France Musique où j'ai présenté plusieurs extraits de l'album Keith Jarrett. Mais pour le moment, à Paris, non, je n'ai pas grand-chose.
Avec Clément Rochefort, Boulevard Raspail, voilà, oui, bien sûr. Très bonne émission, bien sûr.
Ouais.
Et vos festivals?
Eh ben, moi, je suis conseiller artistique pour la Trinité, qui est une scène musicale nouvelle à Lyon, à la chapelle de la Trinité, consacrée aux musiques baroques et musiques irrégulières. Et par la musique irrégulière, on entend toutes les musiques expérimentales, contemporaines, d'aujourd'hui, nouvelles. Et plutôt que d'utiliser une étiquette qui parfois peut un peu effrayer un public, on a voulu choisir ce terme.
Et un nouveau projet discographique, peut-être?
Oui, en mai, j'enregistre chez Ad Vitam un projet qui me tient bien à cœur. C'est mélanger deux compositeurs que j'adore, George Gershwin.
Oui.
Et un ami jazzman qui est décédé il y a 2 ans, qui était un immense pianiste, un immense compositeur de la région lyonnaise, qui s'appelait Mario Stanchev. C'était un pianiste bulgare qui a fondé la section jazz du Conservatoire Régional de Lyon et qui m'a composé toutes sortes d'œuvres, parce qu'on est rentré en amitié, toutes magnifiques et juste très bien écrites pour le piano. Et j'ai envie de faire connaître cette musique. C'est un peu mon credo d'interprète, c'est de faire connaître les musiques qui ne le sont pas encore.
Eh bien, merci beaucoup, François Mardi-Rossian. Très bonne journée.
Merci à vous aussi.
Je vous souhaite de très bons festivals et revenez vite nous voir pour nous tenir au courant de cette actualité, ce prochain disque, je pense, qui sortira l'année prochaine.
Oui, merci Christophe.
Eh bien, merci beaucoup encore. Au revoir, François.
Au revoir.
Écoutez IDFM Radio, où que vous soyez, via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Le pianiste et compositeur belge Patrick Astrid Desfossés vient de publier un nouvel album, Contrepoint, sous le label Siar Classics, initiant une dynamique collective dans des esthétiques multiples entre classique, création contemporaine, improvisation savante et jazz d'aujourd'hui. Bonjour Patrick Astrid Desfossés.
Bonjour à vous.
Ravi de vous accueillir en balade musicale sur IDFM Radio et de vous faire connaître à nos auditeurs. Votre parcours est en effet pour le moins original. Une formation classique complète en France et en Belgique. Et ensuite, vous avez un parcours jazz et musique improvisée à la prestigieuse Berklee School de Boston aux États-Unis et de nombreux stages spécialisés consacrés à la création musicale, notamment à l'IRCAM, fondé par Pierre Boulez. Vous suivez une démarche d'improvisateur incorporant les moyens musicaux numériques actuels. Et vous associez l'instrument acoustique à la lutherie électronique. Est-ce que c'est bien ça, Patrick Astrid Desfossés?
Tout à fait. Tout à fait. Un long voyage à travers diverses esthétiques qui m'a permis d'explorer différents langages et de les associer. J'ai toujours été féru de cette association, de ces combinatoires sonores, de ces expériences qui permettent de faire que se rencontre aussi bien le classique, même voire la musique baroque, avec des moyens d'expression électronique.
On va illustrer votre démarche avec ce prolongement. je ne sais pas si le terme est bien choisi, de Dr Gradus ad Parnassum, première pièce des Children's Corner de Debussy qui ouvre votre album. C'était Dr Gradus ad Parnassum, prolongé par Patrick Astrid de Fossé, la première pièce des Children's Corner de Claude Debussy.
Oui, lorsque nous avons réfléchi aux œuvres de Debussy, nous avons été conquis par les ouvertures qu'offraient les œuvres de Debussy à l'improvisation. Elle permettait vraiment un engagement instantané dans le processus de création, de composition, de prolongement compositionnel en direct. S'il n'y avait pas dans notre démarche de présupposer, c'est-à-dire une organisation de discours qui mettait en scène directement le prolongement du texte de Debussy. Nous avons privilégié, ou du moins j'ai privilégié, vraiment un acte spontané de couleur, de dynamique, d'expression au moment T. Vraiment au moment où cela se fait. C'est vraiment très très important. À partir du moment où j'aurais présupposé des choses, j'étais déjà dans une démarche compositionnelle, presque dans une préorchestration. Et là, se laisser porter par l'environnement, l'univers ambiant, qui correspond aussi les infimes perceptions harmoniques que dégagent les pianos, ce qu'on appelle le rayonnement acoustique, me permettait de prendre des directions étonnantes, surprenantes. Je me suis surpris moi-même et on s'est surpris nous-mêmes. Donc l'improvisation, Debussy l'a peut-être pensé en tant que préfiguration de ses compositions écrites. Nous l'avons, j'espère, prolongé de belles factures au niveau du son, du timbre, de l'expression, du discours.
Alors, quand vous dites « nous », il faut aussi parler de vos collègues, Anne-Gabrielle Debecker, compositrice, et Jérémy Favreau, pianiste.
Absolument. Jérémy a travaillé et interprète stricto sensu les textes de Debussy. Et quant à Anne-Gabrielle Debecker, elle, on va dire, magnifie l'essence des harmoniques que permettent, les textes, et surtout magnifie ces harmonies par rapport au piano de Stephen Poleno, parce que ces pianos magnifiques, avec une puissance de rayonnement acoustique phénoménale, elle le rattrape au bon, elle en fait des couleurs aériennes, diaphanes, et donc ce mélange entre harmonique du rayonnement acoustique des pianos, plus, toutes ces sonorités inouïes qu'elle peut faire se fondre, se mélanger, se combiner, ça donne un résultat tout à fait étonnant.
Alors on va avancer dans votre CD puisqu'il y a des œuvres de vous et notamment cette suite Matin Calme.
Alors Matin Calme est un recueil de à peu près une douzaine d'œuvres différentes. Comme tout le monde le sait, Matin Calme, c'est un terme utilisé pour nommer la Corée. La Corée du Sud, du moins. Et c'est vrai qu'à cette époque de composition de ces pièces, j'étais dans une dynamique de contemplation très forte, presque une zénitude, si je puis dire. Et la rencontre de ces pièces avec les pianos de Stephen était vraiment tout à fait ce qu'il fallait, avec le temps du silence. C'est vrai que pour un peu paraphraser, lorsque j'étais moi-même professeur de piano, j'ai souvent fait commencer les grands élèves que j'avais, les étudiants, par les silences, commencer à comprendre l'architecture des silences avant le texte lui-même. Et donc, c'est une suite contemplative, vraiment de tranquillité. Et grâce au piano de Stephen Poleno, nous avons creusé le spectre. Nous avons été davantage dans le grave, davantage dans l'aigu qui est boisé, comme si nous étions proches de sonorités japonaises, coréennes, etc. Et donc, c'est la lenteur qui m'a conduit. Dans une société très excitée, je continue d'ailleurs à penser que la lenteur nous fait du bien.
Comme je vous comprends, on va vous écouter, Patrick Astrid de Fossé, dans l'un des mouvements de cette suite, Matin Calme 5.
«
C'était la musique de notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, Patrick Astrid de Fossé, le cinquième mouvement de la suite Matin Calme. Revenons avec vous, Patrick Astrid, sur cette combinaison sonore avec cette lutherie pianistique et ce fameux piano opus 102 à cordes parallèles de Stefan Polello. C'est un piano extraordinaire et qui est une sorte de prototype, n'est-ce pas?
Absolument, vraiment un prototype, bien que aujourd'hui il ait plusieurs commandes et qu'un piano me semble me souvenir qui est à Vienne dans une très grande salle, mais globalement on peut parler d'un projet prototypal qui permet à des pianistes classiques de se tester à d'autres interprétations dans la réponse timbrale que ce piano peut donner. Mais vraiment, la jouissance d'être dans le toucher fin, tout ce qui est tactile, je donnais l'exemple l'autre jour, on passe d'une 4L à une Ferrari, mais c'est peut-être un peu trivial ce que je dis, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec cette éblouissant feu d'artifice sonore. Vous faites à peine une note et toute la gamme harmonique émerge. C'est un orchestre. En fait, ce prototype de piano est un orchestre à lui seul. Donc, il faut avoir la patience de le prendre en main. Et cette patience, ça vient pas tout de suite. Il faut lui parler, le caresser, lui donner aussi des musiques qui correspondent à son corps. Voilà, c'est important.
Alors on va prendre un autre exemple dans votre disque de cette combinaison sonore et musicale avec la sonatine opus 16 d'Albert Roussel. Comment procédez-vous? Tous les prolongements sont-ils écrits ou improvisés lors de l'enregistrement?
Alors, en ce qui concerne la sonatine de Albert Roussel, c'est un choix, on va dire dans l'architecture de l'album, c'est le point de basculement, en fait, entre le monde impressionniste et le monde de la création contemporaine. Et la sonatine, en fait, est le seul morceau qui ne jouit pas ni d'artefacts, on va dire, spécifiques de la part de l'interprétation, c'est vraiment stricto sensu, ni d'électronique non plus. Entre les Debussy et le premier Roussel, où j'improvise en amont, où je présente un matin calme en aval, le Roussel sonatine est le point de basculement sans rien, tel que. C'est une pièce extrêmement difficile de Roussel. Je dirais presque que c'est un défi qu'a relevé Jérémy Favreau. Très peu joué aussi. Et on n'a pas trouvé essentiel, pertinent, d'ajouter quoi que ce soit. C'est la seule pièce qui est naturelle, on dirait.
Eh bien, on écoute cette sonatine d'Albert Roussel sous les doigts de Jérémy Favreau. C'était la sonatine d'Albert Roussel par le pianiste Jérémy Favreau, qui est une pièce figurant dans le nouvel album de Patrick Astrid Desfossé. Contrepoint, sorti chez Siar Classics, distribué par Soca Disc. Avez-vous des dates, Patrick Astrid Desfossé?
Alors, je serai dimanche à Saint-Sébastien, au Pays Basque du Sud, telle est la mention, hein. On peut dire en Espagne aussi, mais on peut dire aussi Pays Basque du Sud, pour un concert divisé en deux parties, piano seul en première partie et piano, batterie, percussion dans la deuxième partie. Et c'est un concert complètement improvisé. Là, c'est vraiment musique improvisée. Et j'aurai l'occasion, le 20 mars prochain, de jouer en trio avec Anne-Gabrielle Devecker à l'électronique et petite percussion, moi-même au piano, et avec Médéric Collignon, qui est un vocaliste cornettiste d'expression improvisée, qui fut victoire de la musique jazz en 2013.
Eh bien, il est temps, avant de se quitter, de rappeler que vous publiez aussi un double album, plutôt orienté jazz actuel, sous le titre Un merveilleux piano, sorti également chez Siar Classics, dont nous parlerons dans une prochaine balade musicale. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Astrid Desfossé. Très bonne journée.
Très bonne journée à vous aussi. Merci bien.
À très vite, alors.
À très vite.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Avec son plus récent enregistrement, Origami, la pianiste canadienne Louise Bessette, grande interprète d'Olivier Messiaen, soliste invitée par des chefs d'orchestre prestigieux, dévoile des pages choisies d'un journal musical du compositeur montréalais très prolixe, Anthony Rozankovitch, auteur de plus de 500 œuvres pour la télévision, le cinéma et le théâtre. Est-ce de la musique contemporaine, de la musique pop, de la musique classique? C'est un disque stylistiquement œcuménique d'un éclectisme assumé. Je vous propose de faire votre propre opinion en écoutant une pièce baignant dans une ambiance énigmatique et suave. Et si... Thank you. Et si, Louise Bessette était l'interprète de la musique de Anthony Rozankovich, extrait de son nouvel album Origami, sorti chez Atma Classic, distribué par Soka Disc.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Avec minimaliste, Zimon Nering, l'un des plus talentueux pianistes polonais de la jeune génération, né à Cracovie il y a 29 ans, premier grand prix au concours Arthur Rubinstein à Tel Aviv, propose un programme permettant de découvrir des compositeurs de notre temps partageant une nouvelle esthétique caractérisée par un certain dépouillement et une économie de moyens. L'album offre un panorama très pertinent de ce style, avec les variations en la mineur pour la guérison d'Arinouchka de l'Estonien Arvo Pärt, le concerto pour piano et orchestre du compositeur polonais, surtout connu pour ses musiques de film Wojciech Kilar, l'étude numéro 4 de l'Américain Philip Glass et le concerto pour piano et orchestre à cordes du compositeur polonais Henryk Gorecki, dont nous écoutons les deux mouvements, Allegro Molto et le final Vivace. Nous venons de refermer notre balade musicale avec une interprétation très punchy du concerto pour piano et orchestre à cordes d'Henryk Gorecki par le pianiste Zimon Nering avec l'orchestre de la radio polonaise de Varsovie sous la direction de Michal Klauza, extrait de l'album Minimaliste sorti chez IBS Classical. Je vous souhaite une bonne journée et serai ravi de vous retrouver dès demain matin dimanche 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique et restez à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Une annonce, maintenant, 6e édition de la Musikfest parisienne qui a débuté le 7 mars et qui se prolonge ce 8 mars à Paris, salle Cortot. C'est au 78 rue Cardinet dans le 17e arrondissement. Music Fest, c'est un festin de musique qui se décline dans l'écrin art déco de cette très belle salle Cortot en deux concerts fleuves, alignant quelques-uns de nos plus brillants solistes dans divers formats chambristes. Vendredi 7 mars, c'était Alexandre Kantorov qui croisait le fer avec la violoniste Lia Petrova, directrice artistique de la manifestation, et le violoncelliste Aurélien Pascal dans le trio numéro 1 de Beethoven et dans le quintet numéro 2 de Dvorak, où ils sont rejoints par les archets de Shuichi Okada et de Lise Berthaud. Ce soir, samedi 8 mars, Éric Lesage rend un hommage pianistique à Éric Satie, à Reynaldo Hahn et Lili Boulanger. Jean-Frédéric Neuburger souffle sur les cendres, titre de l'une de ses compositions, et retrouve Lia Petrova et ses amis dans le quatuor avec piano numéro 1 de Brahms. Même le baroque a droit de citer, avec le luth d'Emanuele Forni et la viole de gambe de Salomé Gasselin. Copieux, mais sans aucun risque d'indigestion. Tarif réduit pour les moins de 28 ans, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants.